Propose d'ouvrir vos Bibles dans Philippiens 2. Philippiens 2, les versets 1 à 11. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est dépouillé, humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, je vous annonce que mon message portera sur les 8 premiers versets, trois derniers versets seront pour la conclusion. Chers frères et sœurs, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'orgueil, les conflits sont malheureusement des travers qui émaillent toute l'histoire de l'humanité depuis Adam. Depuis que l'homme existe. La Bible nous présente le cœur de l'homme comme étant bon, tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Dans Jérémie 17, verset 9. L'homme, lorsqu'il laisse libre cours à ses penchants naturels, ne recherche pas à plaire à Dieu. Il ne connaît pas l'humilité. Il est incapable de vivre dans l'unité et la paix avec les autres. Il considère comme étant inférieur à lui-même. Il n'a de cesse de déplaire à Dieu depuis la chute dans le jardin d'Éden. Depuis que Adam et Ève ont laissé, plutôt choisi, de ne pas dépendre de Dieu, de leur Créateur. Depuis lors, l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Celui-ci, pourtant, a dans sa grande miséricorde, fait grâce aux hommes en leur pardonnant leurs fautes. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils se repentent, qu'ils lui obéissent et marchent humblement devant sa face. Israël, son peuple, au travers des récits de l'Ancien Testament, s'est montré infidèle, avec une rare puissance, en s'adonnant à l'idolâtrie et en refusant de s'humilier devant l'Éternel. Malgré cela, il n'a pas changé sa nature de Dieu, miséricordieux et compatissant. Il est resté fidèle à ses promesses de faire grâce et de sauver celui que les prophètes ont annoncé longtemps à l'avance, le Messie, le Christ, Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, est venu sauver cette humanité. Paul a annoncé le message de l'Évangile, la bonne nouvelle aux Philippiens. Et il se réjouit, notamment, dans le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens, il se réjouit de la part que ces Philippiens ont pris à l'Évangile depuis le premier jour. Verset 5 du chapitre 1er. Mais même s'il est persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en eux la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ, au verset 6, il n'en demeure pas moins qu'il leur demande de se conduire d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Verset 26-7 du premier chapitre, juste avant le passage qui nous intéresse ce matin. C'est le contexte dans lequel il a écrit ces 11 premiers versets du chapitre 2. Il les encourage ainsi à être unis dans le combat spirituel pour la défense de l'Évangile. Il est pleinement conscient que les querelles intestines dans certaines assemblées sont autant d'occasions perdues pour se présenter unis contre le véritable ennemi, le diable, Satan. C'est lui qui veut détruire l'Église. Et il se sert de nos cœurs tortueux pour semer la zizanie. Les querelles sont un danger, les disputes sont un danger pour maintenir le but commun de servir Christ. Voilà donc ce que Paul attend des Philippiens. Éviter les disputes, vivre unis. Cela demande pourtant du courage. Parce que les chrétiens de la première heure, de l'Église primitive, s'exposent à affronter les pires souffrances à cause de leur foi. Donc, comment se conduire d'une manière digne de l'Évangile ? Paul, dans le chapitre 2, dans le passage à l'étude ce matin, enjoint les Philippiens à être unis dans l'unité. Pour ce faire, il leur rappelle que Christ est leur parfait modèle d'humilité. Donc ce sont les deux points que je développerai devant vous ce matin. L'unité dans l'humilité et Jésus le parfait modèle d'humilité. Premièrement, le passage à l'étude commence par « si donc », ce qui montre qu'il est bien en lien avec ce qui précède, notamment avec la recommandation, l'ordre de Paul aux Philippiens de se conduire d'une manière digne de l'Évangile, au verset 27 du premier chapitre. Et dans ce passage du chapitre 2, dans ces quatre premiers versets, Paul éclaire ainsi les Philippiens sur ce qu'il entend par une conduite digne de l'évangile de Christ. Il leur dit, avec force, avec passion, hein, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion, etc., etc., s'il y a quelque miséricorde, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Au contraire, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Et toutes ces vertus, ces qualités sont présentes en Jésus-Christ. Et il les réclame de la part de ces Philippiens. Donc, oui, on voit là la verve et la passion de Paul qui donc incite, entraîne dans son sillage les Philippiens de vivre unis dans l'humilité. La meilleure façon de persévérer dans la foi, de vivre selon l'Évangile, est d'être unis. Et on ne peut pas être unis si on n'est pas un. L'orgueil, c'est le remède à l'unité. L'orgueil provoque la désunion. L'orgueil provoque les conflits. L'orgueil provoque les désordres. L'orgueil amène les frères et sœurs d'une assemblée, lorsque ces travers se manifestent, à mettre des séparations entre eux. Ce n'est pas là que Paul pensait par une manière digne de vivre selon l'Évangile de Christ. Alors, parlons un peu de Philippe, hein, il s'adresse à des Philippiens, et Philippe est une ville très cosmopolite. Ses habitants avaient des arrière-plans très très différents socialement. Il y avait des juifs, des païens, des riches, des pauvres. L'Église reflète, et on peut dire même l'Église universelle, n'est-ce pas, reflète cette grande diversité. Paul met en garde les Philippiens, nous met en garde ce matin contre l'égoïsme, les préjugés, la jalousie, source de dissension dans nos relations les uns avec les autres. Il le fait au nom de l'Évangile de Christ. Il ne le fait pas au nom de quelque philosophie particulière. L'Évangile de Christ, ce Christ qui est mort et qui est ressuscité, comme tu le disais ce matin, Rodolphe, ce n'est pas juste quelque chose comme ça, une sagesse, et les Grecs savaient développer ce genre de choses, ce genre de philosophie. Mais ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, et ça n'a rien à voir avec ce qui est proposé, ce que Paul propose en Jésus-Christ. Il a conscience, Paul, que l'égocentrisme peut démolir une église. Alors que l'humilité, au contraire, l'édifie, la fait grandir et permet sa survie dans un monde hostile. Et ça n'a pas changé pour nous. Nous sommes toujours dans cette configuration-là. Le cœur de l'homme est le même, n'est-ce pas? L'humilité, en effet, suppose une perception réaliste de soi-même. Dans Romains 12, verset 3, il est écrit: par la grâce, donc c'est Paul qui parle, hein, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il est dit à peu près la même chose dans le verset 16, vous le lirez chez vous. Voilà une autre manière, n'est-ce pas, de dire, d'affirmer que l'humilité, comme c'est écrit là dans le verset 3b, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus, supérieurs à vous-même. Il s'adresse aux Philippiens, il s'adresse à l'assemblée de Philippe. Il ne fait aucune différence entre responsables, anciens, pasteurs, membres. L'autre, quel qu'il soit, doit être considéré comme étant au-dessus de nous-mêmes. Aux yeux de Dieu, en effet, nous sommes de simples pécheurs, sauvés par grâce. Mais ce salut, acquis à grand prix par Jésus-Christ, a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons renoncer à tout sentiment égoïste et traiter nos co-religionnaires, nos frères, nos sœurs, avec respect. Et pourquoi ? Que nous puissions nous comporter de manière différente de ce qui se passe dans le monde. Nous montrerons ainsi à notre prochain, à notre frère, à notre sœur, que ses besoins sont plus importants que les nôtres. Paul le dit, ne considérez pas seulement vos propres intérêts, considérez les intérêts des autres. Je vous livre une petite illustration qui vous permettra de comprendre, je pense, les effets dévastateurs du manque d'humilité. Alors cette illustration, une fois qu'on n'est pas coutume, n'est-ce pas ? Cette illustration est tirée d'une fable de La Fontaine. Vous connaissez tous la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. C'est gonflé, c'est gonflé. Et à un moment donné, donc dans le poème, s'enfler si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens, ça c'est La Fontaine qui écrit, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages que cette grenouille. Que cette grenouille, c'est pas dans le texte. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Les pages, c'est des serviteurs. Cette morale est édifiante, n'est-ce pas ? Suivons l'exemple de Christ et cherchons à ressembler, à lui ressembler, à ressembler à ce Christ qui est l'humilité personnifiée. Deuxièmement, Christ, le modèle parfait d'humilité. Paul, en disant aux Philippiens d'avoir en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, au verset 5, met le curseur au bon endroit. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Autrement dit, si vous n'arrivez pas à vous départir de votre orgueil, de votre égoïsme, de votre égocentrisme naturel, alors faites appel à Christ. Il a le pouvoir de vous aider. Il n'est pas n'importe qui. En effet, et Paul le rappelle aux Philippiens, leur modèle parfait d'humilité, Christ, et là je cite le passage, donc les versets 6 à 8, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors que nous dit ce passage sur Christ? Premièrement, il a toujours coexisté avec Dieu. Deuxièmement, il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Et là, je vais vous lire un passage dans Colossiens 1, les versets 15 à 19, qui affirme cela, mais il y a d'autres occurrences dans la Bible qui affirment cela. Le Fils est l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Troisième point, bien qu'étant Dieu, il est devenu homme pour accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Quatrième point, il est présent donc dans ce passage, il n'avait pas seulement l'apparence d'un homme, il est vraiment devenu homme pour s'identifier à notre nature pécheresse. Cinquième point, il a volontairement abandonné ses droits et privilèges divins. N'oublions pas, il est Dieu, par amour pour son Père. Il est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. Autre passage qui va également dans ce sens, dans Jean 1, les versets 1 à 4 et le verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là, donc, Jésus est personnifié par cette parole. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous 100% homme. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je vous pose cette question qui me brûle. Je me la pose à moi-même, je m'inclus dedans, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous justifier notre orgueil, notre égoïsme, en invoquant nos droits? Alors que Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, a renoncé à tous ses privilèges, à toutes ses prérogatives divines, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix et en se faisant serviteur de tous. Il écrit. Mes amis, sommes-nous prêts, en toute humilité, à servir ou voulons-nous défendre nos droits à tout prix ? Entre dépenser mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, ou en donner à mon frère ou à ma sœur dans le besoin, quelle voie suis-je prêt à suivre ? si je ne suis pas prêt. Si nous ne sommes pas prêts à vivre dans l'humilité et le service, nous foulons aux pieds Jésus-Christ. Pourtant, il est mon Seigneur, il est notre Seigneur, notre Sauveur. Nous ne voulons pas cela, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas fouler aux pieds celui qui est mort et ressuscité. En lui habite toute plénitude qui est décrite. Il nous invite à puiser en lui tout ce qui nous manque. Demande et il te sera donné. Demandez à Dieu de l'humilité, c'est une prière que Dieu exauce. Parce qu'elle met en œuvre sa volonté pour nous, sa volonté parfaite pour nous. Parce que Dieu ne veut pas nous embêter. Il veut que nous vivions d'une manière digne de l'évangile de Christ. Nous conduire de telle sorte. Et ne pas donner raison à l'ennemi, c'est de diviser l'Église, de la détruire. Ne permettons pas à l'ennemi d'être un instrument entre ceux-là. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. En conclusion, nous avons vu que vivre d'une manière digne de l'Évangile de Christ consiste à rechercher l'unité qui n'est possible qu'à la seule condition d'être un dans nos relations réciproques au sein de notre Église. Nous n'atteindrons ce but qu'en suivant l'exemple d'humilité parfaite de Jésus-Christ qui s'est dépouillé de ses prérogatives divines, s'est fait homme et s'est sacrifié pour nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu 20, verset 26b à 28. Et ça tombe bien, parce qu'il s'est dépouillé, parce qu'il s'est, il est venu comme serviteur et parce qu'il s'est sacrifié. Verset 9 de Philippiens 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pas ce qu'il y a. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions effectivement de remplir nos cœurs d'humilité, que nous puissions chasser de nos cœurs, de nos vies, toute velléité de ne pas vivre dans l'unité les uns avec les autres, et de céder à l'orgueil, de céder aux disputes, aux conflits. Seigneur, tu as dit que tu nous donnais ta paix et que tu ne nous donnes pas comme le monde donne. Et nous croyons, Seigneur, que si nous venons à toi d'un cœur sincère, tu exauces nos prières. Et lorsque nous te demandons d'être humble devant toi, tu entends cette prière et tu l'exauces. Et tu nous rends responsables aussi de nos choix par rapport à toi. Donne-nous d'être conséquents, de ne pas laisser nos penchants naturels prendre le dessus. Parce que tu les as vaincus, Seigneur, tu les as vaincus une fois pour toutes, et définitivement. Tu nous as pardonné nos péchés, tu les as oubliés, tu les as jetés dans la mer, à l'endroit où c'est le plus profond et où personne ne peut les atteindre. Oh, puissions-nous nous comporter d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Que ton nom soit loué.